Le journal est présenté par Claire Checaglini.
18,3% chiffre de la participation au scrutin des municipales. Une élection malgré le passage hier au stade 3 pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Un maintien du vote, quels que soient les appels à son annulation qui se sont multipliés. Annonce ce matin de la réduction drastique des transports. Quant à la date du baccalauréat, le gouvernement ne peut encore s'engager sur son organisation. 18,36% des électeurs sont donc allés voter ce matin. Chiffre donné il y a une demi-heure par le ministère de l'Intérieur. Chiffre clé pour l'exécutif qui a maintenu ce scrutin des municipales. Et ce, malgré le déclenchement du stade 3 contre l'épidémie du coronavirus. 47 600 000 électeurs étaient appelés à effectuer leur devoir électoral. Margot Stiff, si ce chiffre n'est pas catastrophique, 18,3%, il n'en reste pas moins en deçà du précédent scrutin.
Oui, alors c'est 5 points de moins qu'en 2014 où le taux de participation à la mi-journée était de 23,17%. Cette année donc 18,38% avec de grosses disparités entre les départements. Les 5 premiers, les 5 départements où on a le plus voté, c'était la Haute-Corse, le Cantal, l'Aveyron, le Gers et l'Indre. Là-bas, les taux de participation sont supérieurs à 27%, quasiment 28% de participation. En revanche, les mauvais élèves, ceux qui ont le moins voté, se trouvent autour de l'Île-de-France. Il s'agit du Val-d'Oise, de Paris, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de l'Essonne. Là-bas, le taux de participation est à chaque fois en dessous de 13%. On le répète donc au niveau national, 18,38% de participation en nette baisse par rapport à 2014, en nette baisse aussi par rapport à 2008 où le taux de participation à la mi-journée était de 23%.
Les explications de Marco Steve et puis des chiffres qui n'ont rien de surprenant au regard de ce qu'a pu constater aux premières heures du vote, Anne Chépeau, dans un bureau de vote à Nantes.
Alors écoutez, ce matin, j'ai parcouru le centre-ville de Nantes pendant une vingtaine de minutes à pied avant de venir au bureau de vote où je me trouve. C'est sûr qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues. Il était tôt, mais tout de même, ça semblait une ville un petit peu endormie, je dirais. Ici, dans cette école Sully, se trouvent 4 bureaux de vote. 4066 électeurs sont inscrits. Depuis 8h ce matin, il n'y a pas vraiment foule non plus. Pour vous donner une idée, dans l'un de ces bureaux, le 132, à 9h, après une heure de vote, 28 électeurs avaient voté sur 951 inscrits, cela fait 3% de votants. De l'avis des membres de ce bureau, la première heure de scrutin en général donne une bonne idée de ce que sera la journée, c'est un bon indicateur. Concernant les mesures de prévention, il y a un marquage au sol pour que les électeurs se tiennent à distance les uns des autres. Les tablettes des isoloirs sont désinfectées régulièrement et les membres du bureau ne touchent pas les cartes des électeurs. Ils se contentent de les regarder. Ceux qui sont venus voter disent ne pas avoir hésité. Toutefois, une jeune femme médecin a exprimé tout à l'heure son désarroi alors qu'elle était venue voter. Cette jeune femme médecin généraliste a expliqué « Je n'ai pas de masque, pas de gel hydroalcoolique pour travailler. » Et malgré cela, on maintient les élections municipales.
Quant au Premier ministre, il est, lui, allé voter dès la première heure dans son fief du Havre. Devoir accompli pour le candidat Édouard Philippe tout en restant à distance des autres électeurs. Mais hier soir, des appels au report de ce premier tour des municipales se sont multipliés après l'annonce par le locataire de Matignon du stade 3 de prévention contre le coronavirus. Appel émanant du Modem, de LR, du PS, des LR, du Centre, de la France Insoumise, qu'il s'agisse de président de région ou de parlementaire, des politiques parfois eux-mêmes candidats aujourd'hui, appel couplé à ceux de médecins dans la presse. Mais pour Jean-Michel Blanquer, il n'y avait pas de raison d'annuler cette élection. Le ministre de l'Éducation nationale a assuré ce matin sur France Info qu'il irait voter. Il a aussi précisé que 50% de la population française devrait être dans les semaines ou les mois à venir atteinte par le Covid-19.
Le conseil scientifique autour du président de la République a dit que la vitesse de contamination s'était accélérée et qu'il fallait prendre des mesures drastiques. Comme vous le savez, depuis le début, la stratégie, c'est pas d'empêcher que le virus passe. On sait qu'il passera probablement par plus de la moitié d'entre nous. Mais c'est de faire en sorte qu'il passe de manière la plus étalée possible dans le temps. À chaque fois, l'objectif est d'être au plus près des recommandations des scientifiques qui eux-mêmes font leurs recommandations à partir de ce qu'ils constatent sur le terrain. Donc il y a une réponse qui s'adapte au fil des constats qui sont faits. Et donc c'est comme des sortes de barrières, si vous voulez, qui sont mises les unes après les autres, non pas pour empêcher le flux, mais pour l'endiguer, pour le freiner.
Et sur le maintien du calendrier scolaire et des examens afférents, là, le ministre de l'Éducation nationale est resté beaucoup plus flou, Diane Berger.
Il y aura bien une session du baccalauréat cette année, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ce qu'affirme Jean-Michel Blanquer. Mais pour l'instant, aucune date n'est connue pour la réouverture des classes, encore moins pour la tenue d'éventuelles épreuves. D'après le ministre, il existe un scénario privilégié par l'éducation nationale, un retour à la normale au mois d'avril, après les congés du printemps. Mais si l'épidémie dure, que les mesures d'endiguement du virus se prolongent en mai et en juin, il l'avoue, il faudra bouleverser le calendrier et la situation actuelle pourrait tout à fait durer jusqu'aux vacances d'été. Cette position de Jean-Michel Blanquer arrive après des annonces contradictoires cette semaine. Jeudi matin, la fermeture des écoles n'était pas envisagée officiellement. Le soir même, elle est annoncée par Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer le reconnaît. En phase 3, le gouvernement navigue maintenant à vue. Mais pour lui, c'est une stratégie nécessaire pour s'adapter le plus possible aux avis de la communauté scientifique.
Merci beaucoup Diane Berger. Les transports longue distance progressivement réduit, annonce ce matin d'Elisabeth Borne. Tout le monde pourra rentrer à son domicile et il n'y aura pas d'arrêt brutal, assure la ministre des Transports et de la Transition écologique. Le trafic SNCF sera fortement impacté avec un TGV sur deux à compter de mardi, idem pour les intercités. Quant au TER, compter deux TER sur trois. Le gouvernement appelle tous les voyageurs à renoncer à leurs déplacements non essentiels. Dans les stations de ski, le coronavirus aura aussi eu raison de la saison pour les vacanciers. Les dernières pistes sont en train d'être dévalées avant une fermeture de la totalité des domaines skiables en France à 17h. Et puis à la prison de Fresnes, après l'annonce hier d'un premier prisonnier infecté, c'est une infirmière cette fois qui vient d'être testée positivement. À l'étranger, en Iran, le Covid-19 a tué 116 malades supplémentaires en 24 heures. Le bilan s'établit à 724 morts, soit une progression des cas mortels de l'ordre de 18% en une seule journée. En Jordanie, 4 touristes français ont été testés positifs au coronavirus. Et puis pour faire le point sur la transmission de ce Covid-19, le temps d'incubation, la prévention, rendez-vous sur franceculture.fr. Au Vatican, toutes les cérémonies de la Semaine Sainte auront lieu sans les fidèles. Hors urgence sanitaire internationale, les messes du jeudi saint au dimanche de Pâques attirent en général des dizaines de milliers de catholiques place Saint-Pierre. Pâques étant la fête la plus importante pour les chrétiens. Aux États-Unis, illustration des contradictions dans les mesures prises contre la pandémie du Covid-19. La Géorgie reporte le scrutin des primaires prévu le 24 mars. Décision prise ce matin après la Louisiane vendredi. Dans 4 autres États, la Floride, l'Illinois, l'Arizona et l'Iowa, le vote est lui maintenu. Alors les Américains se sentent-ils vraiment en danger? Ont-ils été rassurés par les mesures annoncées il y a quelques jours par la Maison-Blanche? Le reportage d'Isabelle Raymond à New York.
Ils sont critiques, les New-Yorkais. L'État fédéral américain commence juste à prendre la mesure du coronavirus, pense Chiara, son garçon de 2 ans à la main. Même les mesures d'aide annoncées ces dernières 24 heures la laissent songeuse, à commencer par celle de fournir gratuitement des tests à tous ceux qui en ont vraiment besoin. C'est super toutes ces mesures, me dit-elle, et je ne sais pas si je peux le croire à 100%, Donald Trump, car je ne vois pas bien comment ils peuvent avoir assez de tests pour tout le monde. Il faudra de toute façon prendre beaucoup de temps pour prouver que vous en avez vraiment besoin. Donc moi, je préfère surtout en ce moment rester éloigné le plus possible des hôpitaux. Aux États-Unis, 10% de la population est privée d'assurance santé, et pour les 30 millions de salariés qui d'habitude ne bénéficient pas d'arrêt maladie, le projet de loi spécial coronavirus en prévoit un enfin, selon Matthew, étudiant à l'université de New York. J'aurais vraiment aimé que ces mesures soient prises avant pour éviter la propagation du virus et tous ces morts, mais je dirais que la mise en place d'un arrêt maladie pour tous les salariés est la mesure la plus forte, parce qu'aujourd'hui, son absence est la raison pour laquelle les gens continuent à aller au travail, même malades, sinon ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. À New York, les écoles sont toujours ouvertes. En cas de fermeture, 700 000 enfants seraient privés d'un repas complet et gratuit par jour.
Et quant à Donald Trump, il n'est pas porteur du coronavirus, annonce la nuit dernière de la Maison-Blanche. En Israël, le procès de Benjamin Netanyahou a lui aussi été reporté en raison du Covid-19. À compter de mardi, le premier ministre de l'État hébreu devait être jugé pour corruption, malversation et abus de confiance. Vous écoutez France Culture, il est midi 39. Nabila Hamel explore la face cachée du globe comme chaque dimanche. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Nicaragua. Bonjour Nabila.
Bonjour Claire. Sans surprise, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été désigné jeudi candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain, un homme qui a accompli toute sa carrière politique dans l'ombre du président sortant Alassane Ouattara. tout de noir vêtu. Des centaines de personnes sont sorties manifester vendredi à Bangkok contre, je cite, la mort de l'état de droit et de la démocratie en Thaïlande. Les manifestants contestaient surtout la dissolution du parti En Avant l'Avenir et le bannissement de 16 de ses dirigeants, interdits désormais d'activité politique. Cette nouvelle formation est composée surtout de jeunes hostiles au rôle politique joué par l'armée depuis l'arrivée au pouvoir du général Prayut Chan. Le gouvernement argentin a ouvert mardi la voie à la restructuration de 68,8 milliards de dollars de sa dette publique. Dans un contexte de récession, Buenos Aires explique ne pas avoir d'autre choix. La dette s'élève à 311 milliards de dollars, ce qui représente plus de 90% du produit intérieur brut. Cap sur le Nicaragua, où 100 000 étudiants, défenseurs des droits de l'homme, journalistes, agriculteurs ont fui le pays depuis la crise politique d'avril 2018, chiffre donné cette semaine par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Maya Colombon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, spécialiste du Nicaragua. Près de deux ans après la révolte contre le président et ex-guerriero sandiniste Daniel Ortega, suivi d'une répression qui a fait 325 morts, où en est la situation aujourd'hui dans le pays?
Au printemps 2018, c'était des grandes manifestations avec une répression dans la rue des forces de l'ordre et des paramilitaires, alors que depuis les tables de négociation, s'est mis en place plutôt un système d'emprise sur la population par la peur, qui fait que les gens n'osent plus manifester pour éviter la répression. Donc c'est une situation qui est, d'un point de vue, on va dire, social, extrêmement tendue, et d'un point de vue économique, très compliquée, d'où aussi une grande partie des flux migratoires vers le Costa Rica. C'est non seulement les départ des opposants, mais c'est aussi de plus en plus le départ des gens qui, économiquement, n'arrivent plus à survivre.
De quel soutien dispose encore le président Ortega à l'intérieur du pays et dans la région?
À l'intérieur du pays, une partie de la population soutient Daniel Ortega et son gouvernement, essentiellement parce que le gouvernement Ortega a très largement arrosé le pays avec des politiques clientélaires et donc des moyens pour financer des politiques sociales qui ont, dans une partie de la population, créé et renforcer une discipline partisane. Donc des gens finalement qui ont un intérêt à ce que le gouvernement se maintienne, ce sont, on va dire, les forces vives du sandinisme ortéguiste qui sont encore très fortes. Et du point de vue extérieur, Ortega est en fait assez isolé de la plupart de ses partenaires latino-américains. C'est un pays plutôt isolé sur la scène internationale, décrié par une grande partie des organisations internationales et l'Union européenne par exemple, et qui, à l'intérieur, se maintient grâce à cette pression dont on parlait tout à l'heure.
Alors, Maya Colombo, une coalition de l'opposition au Nicaragua a vu le jour en prévision des élections de l'an prochain. Peut-elle devenir une alternative au système Ortega?
L'Alliance civique et d'autres organisations qui se sont mises en place dès le printemps 2018 ne cessent de se recomposer et d'essayer d'avoir une présence dans l'arène politique nicaraguayen. Mais comme les opposants n'ont plus accès à l'espace public, ils ne peuvent plus manifester, ils ne peuvent plus interagir. Donc les organisations de l'opposition peuvent difficilement organiser quelque chose d'un petit peu cohérent. Il faut aussi dire qu'une grande partie des opposants sont partis et donc n'ont pas cette capacité à agir directement dans le débat public national.
Merci beaucoup. Merci à vous, Maya Colombon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon.
Merci.
Et puis cette belle histoire pour finir, celle d'une jeune brésilienne de 12 ans qui a fondé une bibliothèque de 18 000 livres dans son quartier. Et son quartier, c'est une favela au-dessus de la zone chic de Copacabana. Tout est parti d'un salon du livre où Raissa Luara de Oliveira s'est rendue il y a 6 mois. Elle y entend une mère refuser à sa fille l'achat d'un livre qui coûtait l'équivalent de 60 centimes d'euros. L'adolescente prend alors le téléphone de sa grand-mère chez qui elle vit, lance un appel aux dons de livres sur les réseaux sociaux et demande également un local à l'association de quartier. Aujourd'hui, la bibliothèque de 20 mètres carrés au toit en tôle ondulée est bien là et la jeune fille promet de donner l'envie de lire aux enfants de la favela. Et au passage, elle interpelle le maire de Rio, Marcelo Crivella, en ces termes. À 12 ans, j'ai fait plus pour mon quartier que vous durant tout votre mandat. À dimanche prochain.
C'était la face cachée du globe avec Nabila Hamel. La météo pour cet après-midi, vigilance orange pour les départements de l'Aisne et de l'Oise pour risque de crue. De la pluie sur la pointe Bretagne et sur le Cotentin, temps nuageux sur les Pyrénées avec des orages en fin d'après-midi sur les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques. Ailleurs, le temps sera globalement ensoleillé avec des températures en hausse allant de 8 à 16 sur la moitié nord, de 1 à 18 sur la moitié sud.